Repton et Shell, de 1929 à 1936, de 13 à 20 ans. Chapitre 1, en tenue pour le collège. Lorsque j'eus 12 ans, ma mère m'annonça « Je t'ai inscrit à Marlborough et à Repton, lequel préfères-tu ?» Tous deux étaient de célèbres collèges privés, mais je n'en savais pas davantage à leur sujet. « Repton, déclarai-je, j'irai à Repton. » C'était un mot plus facile à prononcer que « Marlborough ».« Très bien, dit ma mère, tu iras donc à Repton. » Nous vivions alors dans le Kent, dans une petite ville du nom de Bexley. Repton se trouvait au cœur des Midlands, près de Derby, 210 km plus au nord. C'était sans importance, les trains ne manquaient pas, personne à cette époque n'était conduit à l'école en voiture. On nous faisait prendre le train. J'avais exactement 13 ans, en septembre 1929, quand sonna l'heure de mon départ pour Repton. Le jour fatidique, je dus d'abord m'habiller pour l'occasion. La semaine précédente, je m'étais rendu à Londres avec ma mère afin d'acheter l'uniforme du collège et je me rappelle ma consternation devant le déguisement dont je devais m'affubler. « Je ne peux pas sortir avec ça sur le dos, m'écriai-je, personne ne s'habille comme ça. « Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé ?» demanda ma mère au gérant de la boutique. « Sylva Repton, madame, c'est l'uniforme réglementaire, » répondit le gérant d'une voix ferme. Et maintenant, cette tenue extravagante était étalée sur mon lit, prête à être endossée. « Allons, » dit ma mère, « dépêche-toi, sinon tu vas rater le train. »« Je vais avoir l'air d'un parfait idiot, » répliquai-je. Ma mère sortit de la chambre, me laissant me préparer. La mort dans l'âme, je commençai à m'habiller. Tout d'abord, il y avait une chemise blanche avec un col blanc amovible. Ce col ne ressemblait à aucun de ceux que j'avais pu voir. Il était rigide comme un morceau de celluloïde. Sur le devant, les pointes étaient rabattues vers le haut comme des ailes, si hautes que leurs pointes, je le constatais, par la suite me piquaient le menton. C'était ce qu'on appelait un col cassé. Pour fixer le col cassé à la chemise, il vous fallait deux boutons, un devant et un derrière. Jamais encore je ne m'étais livré à ce genre de gymnastique. Je dois faire ça correctement, me dis-je, pour m'encourager. Je commençais donc par glisser le bouton arrière dans le pied de col de la chemise. Puis j'essayais d'y ajuster l'arrière du col, mais il était si raide que je n'arrivais pas à insérer le bouton dans la fente. Je décidai de le ramollir avec de la salive. Glissant le bord du col dans ma bouche, je le suçai pour éliminer l'amidon. Le résultat fut satisfaisant. Le bouton passa à travers la fente et l'arrière du col se trouva en place. J'insérai le bouton de devant dans l'une des boutonnières avant de la chemise que je passais par-dessus ma tête. Avec l'aide d'une glace, j'entrepris alors de glisser la tête du bouton de devant dans la première des deux boutonnières, à l'avant du col. La fente était si étroite, si rigide, qu'il n'était pas question de faire passer quoi que ce soit au travers. J'enlevai ma chemise, mis le devant du col dans ma bouche et mâchonnai les deux fentes jusqu'à ce qu'elles se fussent ramollies. L'amidon n'avait aucun goût. Je remis ma chemise et réussis enfin à passer le bouton de devant à travers les fentes du col. Autour du col, mais sous les ailes triangulaires, je nouai une cravate noire d'un nœud classique. Vinrent ensuite le pantalon et les bretelles. Le pantalon était noir avec de fines rayures grises verticales. Je boutonnais les bretelles sur le pantalon, 6 boutons en tout, puis j'enfilais le pantalon et ajustais les bretelles à la bonne longueur en faisant coulisser les 2 passants métalliques. Je mis ensuite des souliers flambant neufs que je lassais. Le gilet maintenant. Il était noir également et comportait 12 boutons sur le devant et 2 petites poches de chaque côté, l'une au-dessus de l'autre. Je l'endossais et le boutonnais, commençant par le haut, fort soulagé de ne pas avoir à mâchonner chacune des boutonnières pour pouvoir y passer les boutons. Tout cela était déjà assez éprouvant pour un garçon qui n'avait jamais rien porté de plus compliqué qu'une culotte courte et un blazer. Mais le bouquet, c'était la veste. Non pas précisément une veste, mais une sorte de jaquette d'un ridicule achevé. Tout comme le gilet, elle était noire et de serge épaisse. Elle était coupée de telle sorte que les 2 côtés ne se rejoignaient qu'en un seul point, à peu près au milieu du gilet, où était posé un unique bouton. À partir de ce bouton, les pans s'écartaient en s'incurvant derrière les jambes, où ils se rejoignaient à hauteur des genoux, formant une queue de pie. Ces basques étaient séparées par une fente, et à chaque pas, elles voltaient contre vos jambes. J'endossais cette jaquette et la boutonnais. Me faisant l'effet d'un apprenti chez un entrepreneur des pompes funèbres, je descendis furtivement au rez-de-chaussée. À ma vue, mes sœurs se mirent à glapir de joie. « Oh, il peut pas sortir comme ça !» hurlèrent-elles. « La police va l'arrêter !»« Mets ton chapeau !» dit ma mère en me tendant un canotier à large bord, orné d'un ruban bleu et noir. Je le posai sur ma tête, faisant de mon mieux pour prendre l'air digne. Mes sœurs étaient convulsées de rire. Ma mère m'emmena de la maison avant que je ne perde tout à fait mon sang-froid, et ensemble, nous traversâmes le village pour gagner la gare de Bexley. Ma mère allait m'accompagner jusqu'à Londres et me mettre dans le train pour Derby, mais on l'avait prévenue qu'elle ne devait en aucun cas aller plus loin. Je n'avais qu'une petite valise à porter. Ma malle avait déjà été envoyée, munie de l'étiquette « bagages non accompagnés ». « Personne ne te prête la moindre attention », me dit ma mère, tandis que nous descendions la grande rue de Bexley. Et, bizarrement, c'était vrai. « J'ai en tout cas appris une chose sur l'Angleterre », poursuivit ma mère. « C'est un pays où les hommes adorent porter des uniformes et des vêtements excentriques. Il y a 200 ans, ils s'habillaient de façon encore plus étrange que maintenant. Estime-toi heureux de ne pas avoir à porter une perruque sur la tête et des flots de rubans sur les manches. » « Je me sens quand même grotesque, » dis-je. « Tous ceux qui te regardent, » insista ma mère, « savent que tu pars dans un collège privé. Tous les collèges privés anglais ont leurs propres uniformes, aussi différents qu'extravagants. Les gens penseront que tu as bien de la chance d'aller étudier dans un de ces endroits célèbres. » Nous prîmes le train de Bexley à Charing Cross, et de là gagnâmes en taxi la gare de Euston. À Euston, je montai à bord du train pour Derby avec une foule d'autres garçons, qui tous arboraient la même tenue ridicule que moi. Et nous partîmes.